regard croisé sur la croix,
quelle perspective? Qu'est-ce que c'est? Allez, c'est pas une question piège, c'est une question. Qu'est-ce que c'est? Une ligne, voilà, une ligne droite. En fait, c'est une croix vue de profil. Et on peut dire qu'une croix vue de profil perd beaucoup de son intérêt, n'est-ce pas? Une croix vue de profil perd beaucoup de son intérêt. Et donc, un des idées derrière la série de quatre messages qu'on va faire chez vous, c'est l'idée de regarder la croix de plusieurs angles. Parce que la croix est tellement riche, la croix est tellement centrale, qu'on ne peut pas épuiser sa richesse. On peut regarder tant qu'on voudra. On n'épuisera pas la richesse de la croix. Et donc, on va avoir ces regards croisés sur la croix. Ces regards, d'abord celui du Fils, puis après celui du Père, celui du diable, celui du croyant. On pourrait multiplier les exemples. Et on n'épuisera pas la richesse de la croix. Non, une croix vue sous autant d'angles qu'on veut, on ne l'épuisera pas. On verra sa richesse. Et parce que dans toute l'histoire de la foi chrétienne, tout le monde s'est arrêté pour considérer, pour peser l'importance de la croix. On va essayer aussi, de temps à autre, de mêler dans ce que l'on dit des expressions, des citations, des points de vue d'autres théologiens pendant toute l'histoire de la foi chrétienne. Et moi, j'aimerais vous présenter d'abord une citation que j'ai tirée de d'Abélard, donc un bon français, qui a ensuite épousé, comme vous le savez, Héloïse. Et lui, il parle de l'influence morale de la croix. Donc, l'importance de la croix, c'est l'impact qu'elle a sur la vie du croyant. Il a dit la chose suivante. Notre rédemption dans la passion du Christ consiste en l'éveil chez nous d'un amour plus profond qui nous libère de l'esclavage au péché, qui nous procure la vraie liberté des enfants de Dieu pour que nous agissions dans l'amour et non dans la crainte. Je vous laisse relire le texte. Il a tort. Il a raison. Il a un peu tort et un peu raison. Comment faire la part de ce qu'il dit? Est-ce que l'impact de la croix, est-ce que l'importance de la croix, c'est vraiment l'impact qu'elle a chez toi? L'éveil chez toi de quelque chose? Très bonne question. Comment y répondre? Et on va essayer, à travers ces messages, de vous montrer comment juger des différents points de vue sur la croix qui existent. Parce qu'il en existe de multiples points de vue. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Allez. Des clés? Non, pas des clés. Des clous. Vous avez bien raison. Des clous. Ils sont très intéressants et très intelligents, ces personnes. Pourquoi des clous? Bon, vous avez deviné, parce qu'en fait, voilà, on parle de la croix. Mais il y a une autre citation que j'aimerais vous présenter avant de passer à l'étude de la Bible. Luther a dit la chose suivante. Nous promenons les clous de la croix dans la poche. Vous tous, toi et la personne à côté de toi, vous promenez avec les clous de la croix dans la poche. Qu'est-ce que ça veut dire? On va explorer cette idée tout au long de cette série de messages. Quelle perspective? Et on va commencer à parcourir l'évangile de Matthieu pour voir quelle est la perspective du Fils sur la croix. J'avais aussi pris la photo. C'était très intéressant, j'ai préparé ce message. Et puis j'ai vu dans un journal qu'on a trouvé les clous qui datent de l'époque roumaine, donc du premier siècle de notre ère, au Portugal, dans un cercueil de quelqu'un de religieux. Et on pense que là, le clou là qu'on voit, c'était de l'époque de Jésus, et peut-être un relique qu'on admirait. Donc juste cette semaine, on a vu ça dans les journaux, les clous qui auraient crucifié notre Seigneur. Mais qu'en est-il de la perspective du Fils? Comment on peut comprendre ce que Jésus, homme et Dieu, Dieu fait homme, comment il a vécu la croix? Je vais vous demander de vous poser cette question. Jésus, comment est-ce qu'il a vécu la croix? En Palestine, il y a 2000 ans, il a grandi. Il a réellement vécu. Il a atteint l'âge de 30 ans. Il a commencé son ministère. Il est allé au bout. Comment dans tout cela Jésus a-t-il vécu la croix? Et je vais vous présenter 5 éléments qui vont vous permettre de faire le tour un peu de comment lui, il a vécu cela. Et la première chose, c'est son identité. Son identité. Et c'est une identité très précise. Je vais vous tourner à Matthieu 16 pour commencer ce parcours. Matthieu chapitre 16, c'est le moment où Simon-Pierre fait la découverte et la déclaration sur l'identité de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 16, à la question « Qui suis-je ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus le félicite de cette déclaration, lui dit que c'est Dieu le Père qui l'a révélé. Et puis qu'est-ce qu'il fait à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là où son identité est déclarée haut et fort par Pierre. C'est à partir de cela, de ce moment-là, qu'il commence à parler de sa mort. Verset 21 du même chapitre. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. À partir de cette déclaration de son identité, cette identité qu'il habite depuis son baptême, on peut être sûr de cela. Vous vous rappelez, le jour de son baptême, il est baptisé et Dieu envoie l'Esprit comme une colombe qui descend sur lui et dit « Voici mon Fils en qui j'ai placé mon amour. » Et à ce moment-là, Jésus est oint. Il est oint par l'Esprit Saint pour être le Messie. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de comment Jésus a vécu ce moment-là. Il entend la voix. Il voit la colombe et il sait, peut-être pour la première fois, et je m'avance là à tâtons, peut-être pour la première fois, Jésus, l'homme, sait qu'il est le Messie d'Israël, loin de Dieu, et qu'il a une mission précise à accomplir. Mais dans tous les cas, publiquement, c'est certain, c'est la première fois que Dieu loin comme cela. Jésus ne flotte pas à 50 cm de la terre en Palestine. Il a les pieds sur terre. Et en grand être humain, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Je suis le Messie. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va avancer à partir de ce moment-là, lui, Dieu, fait homme? Jésus, l'homme. Moi, je pense que ce qu'il va faire, il va faire une étude biblique. Il va se dire, je suis le Messie, je suis loin maintenant de Dieu. J'ai une mission et une identité. Qu'en dit les Écritures. Et Jésus, déjà imprégné des Écritures, déjà amoureux de ses écrits, il les reprend, il les retrace, il les relit pour voir quoi dans l'Ancien Testament parler du Messie. Et quand il a découvert ce que l'Ancien Testament dit de tout cela, il a su que son identité en tant que Messie allait l'appeler inéluctablement à mourir, à souffrir. Il assume son identité de Messie. Il réalise que son identité et sa mission font un. En tant que Messie, il doit souffrir. Il doit mourir selon les Écritures. Et c'est intéressant parce que Jésus, il ne dit pas la même chose à toutes les fois qu'il révèle cela à ses disciples. J'étais étonné de voir, quand j'ai fait cette étude, combien la révélation des choses que Jésus dit à ses disciples est progressive. Est-ce que c'est parce que c'est une réalisation progressive dans la vie de Jésus, dans son vécu, dans sa compréhension de ce que ça va faire pour lui? Regardons ensemble ces textes. Le premier, on l'a déjà lu. À partir de ce jour-là, Jésus commença à exposer à ses disciples ce qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Première fois qu'il parle de sa mort dans Matthieu. Et là, il s'agit de qui? Du peuple israélite, des juifs et des responsables tout particulièrement. Deuxième fois qu'il parle de sa mort, Matthieu 17, et puis on avance dans l'évangile de Matthieu, 22 à 23, il parle encore une fois de sa mort. Et là, il dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Et donc là, c'est pas seulement les chefs et les responsables du peuple d'Israël qui vont le rejeter. Là, c'est les hommes. Est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte que sa mission, son identité de Messie, va l'appeler à mourir, non seulement en vue du peuple d'Israël, mais en vue de toute l'humanité? Dans tous les cas, il révèle des choses à ses disciples de manière progressive. Chapitre 20, 17 à 19, encore une fois, on voit une progression dans la révélation de ce que Jésus comprend et communique par rapport à sa mort. Matthieu 20, 17 à 19. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route: « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres, aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Mais est-ce qu'il n'a pas fouillé dans la Bible pour voir ce qu'il allait lui arriver, lui, le Messie, dont l'identité allait inéluctablement l'appeler à mourir, maintenant sur une croix romaine, la plus sordide, la plus cruelle des morts? Est-ce qu'il annonce à ses disciples, en même temps qu'il découvre lui-même, lui le Messie? L'identité de Jésus et sa croix sont donc liés étroitement. Et on peut dire qu'il va à la croix pour assumer entièrement son identité en tant que Messie. Il est loin de Dieu, pas pour être victorieux dans un premier temps, mais pour mourir. Après, il y a la perspective de son peuple. Vous savez qu'en début de Matthieu, quand l'ange fait l'annonce de la naissance de Jésus, l'ange nous dit pourquoi il va porter le nom de Jésus. 1:21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est l'annonce avant le moment de la mort de Jésus. Il n'est pas question là de la mort de Jésus. On découvre plus tard que ce sera par sa mort qu'il va sauver son peuple. Mais là, il portera le nom de Jésus, car il sauvera son peuple. C'est qui son peuple? C'est qui son peuple? On vient de voir qu'il considère sa mort d'abord comme étant par rapport au peuple juif, et puis par rapport à l'humanité. Et puis, par rapport à l'humanité, et il décompte tout le monde dans cette humanité-là. Et je pense que Jésus se présente comme sauveur de son peuple. Et on va voir cela dans le moment de la Sainte Cène. Matthieu 26 à 29. Le chemin jusque-là a été long, et maintenant, dans l'évangile de Matthieu, on a beaucoup, beaucoup de temps passé autour de la dernière semaine de la vie de Jésus, où on prend le temps de puiser justement l'importance et le sens de la mort de Jésus. C'est le moment de la Pâque juive, vous le savez très bien, et Jésus fête la Pâque juive avec ses disciples. Et au verset 26, nous lisons, « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soit pardonné. Je vous le déclare. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Au moment de la Pâque juive, Jésus donc se présente comme agneau pascal qui sera sacrifié pour les péchés de beaucoup d'hommes. Vous voyez ça? Prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, c'est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il remplace l'agneau pascal. Il remplace l'ancienne alliance. Il crée un nouveau peuple, cette fois-ci de beaucoup d'hommes, pour lequel il donne sa vie. Et quand il parle de beaucoup d'hommes, il fait référence à déjà à quelque chose qu'il a dit en Matthieu 20, et aussi à quelque chose que le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 53 de sa prophétie. On va les regarder, ces deux versets, ensemble. D'abord, le verset 28 du chapitre 20 de Matthieu. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et je pense qu'un des chapitres que Jésus a dû méditer et reméditer et reméditer pendant son temps sur la terre, c'était le passage d'Ésaïe 53, où Ésaïe, le prophète, voit au lointain la mort de loin de Dieu. Je lis les versets 10 à 12 d'Ésaïe 53. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Et tous ces passages-là, ce concept de beaucoup, de la multitude, c'est pour cela que Jésus donne sa vie. Il va à la croix pour assumer pleinement son identité de Messie. Il va à la croix parce qu'il aime son peuple. Son peuple qui mettra sa foi en lui. Il va à la croix. Rendez-vous bien compte de cela. Parce qu'il vous aime. Il va à la croix parce qu'il m'aime. Il y va pour son peuple. Consciemment. Troisième chose, son obéissance. Nous le voyons à merveille dans le jardin de Gethsémani. Je vous invite à tourner à ce passage dans le jardin. C'est tout de suite après la Sainte Cène, au verset 36 du chapitre 26. Moi, j'imagine l'évangile de Matthieu comme étant un parcours où Jésus, pas après pas, consciemment, accepte sa mort pour nous. Et je sens le poids de cette décision-là. Je sens le poids de cet amour-là dans le jardin de Gethsémani. Lisons le texte. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici. » Et veillez avec moi. J'arrête la lecture là. Je note avec étonnement, avec émerveillement, avec émotion, qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Lui, Dieu lui-même, le Messie. Lui, qui a fait tant de miracles et qui a été le réconfort de tout le monde qu'il a croisé. Lui, il a besoin de prendre Pierre et les deux fils de Zébédée. Pour ne pas se sentir seul à ce moment-là, pour avoir un peu de compagnie, pour avoir un peu de soutien. Lui, Dieu, prend des amis dans le jardin. Et non seulement cela, mais il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Même si les Romains ne l'avaient pas pris, il sent le poids de sa mort qui vient sur lui. Accablé. Il est au point même de mourir de tristesse, d'angoisse. Il les prend dans le jardin pour se sentir un peu moins seul, un peu moins dévasté, un peu moins triste. Mais là où il va, eux, ils ne peuvent pas aller au bout. Donc même ces trois-là, il les laisse un peu en arrière. Il prend encore quelques pas, verset 39. Il se laissa tomber la face contre terre, réellement la face de Jésus contre la poussière d'une terre en Palestine. Et il prie. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi. Tu le veux. Si tu le veux, écarte cette coupe. Notez bien la tournure de la phrase. lorsqu'il va reprier, et la tournure de la phrase ne sera plus la même. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » D'abord, il demande positivement, « Écarte de moi cette coupe. » Deuxièmement, il accepte que cette coupe doit être bue, qu'il n'est pas possible que cette coupe lui soit épargnée. Cette coupe de quoi ? Cette coupe de la colère de Dieu. Cette coupe de la punition pour nos péchés. Vous allez voir dans les études sur l'Ancien Testament que la coupe ici, c'est justement la coupe du jugement et du châtiment de Dieu. Non, cette coupe, impossible qu'elle lui soit épargnée. Et quelle est donc son attitude ? Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Que ta volonté soit faite. La croix pour Jésus est une histoire d'obéissance à son Père céleste. Et l'auteur des Hébreux peut même dire, et c'est osé, je vous invite à tourner à ce verset pour le voir. L'auteur d'Hébreux, qui lui est convaincu que Jésus était pleinement Dieu, il dit même que Dieu a tout fait par lui. Qu'est-ce qu'il dit ? De l'homme Jésus, verset 8 du chapitre 5, il a dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus, le Messie, par amour pour moi, qui fait partie de son peuple, et par amour pour son Père, a appris à être obéissant. Il va à la croix pour assumer pleinement son identité. Il va à la croix parce qu'il m'aime. Il aime son peuple. Il va à la croix parce qu'il aime son Père et veut lui être obéissant. Voyez Jésus face contre terre, dans le jardin, en train d'apprendre difficilement l'obéissance à son Père. La perspective du Fils sur la croix. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand il voit la croix, un peu de loin, son identité l'amène, son amour pour nous l'amène, son amour pour son Père l'amène à le faire, ben ça c'est en avant, en amont de la croix. Quand il y est, quelle est sa perspective ? Quand il a les bras écartés, quand son sang coule, quand les épines brisent son front, quelle est sa perspective là, à ce moment-là, de la croix ? Et le mot qui résume tout, c'est la solitude. C'est la solitude du Fils de Dieu à la croix. Je vous invite à tourner au Matthieu chapitre 27, au verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Encore un signe que la colère de Dieu pesait sur la situation. Obscurité dans l'Ancien Testament, c'est souvent associé à la colère de Dieu. cette colère de Dieu donc, qui est là, présente. Et face à cette colère de Dieu, contre le péché que Jésus porte, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Ila, ila, lama sabachthani » ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase qui retentit jusque dans nos jours, cette cri de dérédiction, comme on dit, de la croix de Jésus, qu'est-ce que ce cri veut dire ? On entendra beaucoup parler du psaume 22. Et c'est un psaume où, justement, le premier verset est exactement le même que ce cri que Jésus fait à la croix. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Psaume 22. Est-ce que Jésus est en train de citer le psaume 22? C'est possible. Mais pour moi, ce n'est pas certain. Déjà, il crie en araméen. Jésus, lui, connaissait les Écritures en hébreu. Et je pense beaucoup plus probable qu'une citation de la Bible sur les lèvres de Jésus soit en hébreu qu'en araméen. Ça peut être dogmatique, c'est un point de vue. Mais le danger, si on pense que c'est une citation du psaume 22 et que cela implique la fin du psaume 22 qui est un psaume de confiance finalement en Dieu, le danger c'est qu'on éloigne un peu de Jésus le sentiment derrière la phrase qui est un sentiment de profonde solitude. Et moi, je pense que le cri représente exactement les sentiments de Jésus à ce moment-là. Il n'est pas en train de faire son culte personnel à la croix. Il est en train de vivre l'abandon de son Père. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer la solitude et l'abandon. S'il veut dire Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il n'y a pas d'autre mot. À la croix, la perspective du Fils, c'est celle d'être abandonné et seul. Porter le péché et la colère à notre place, seul. Il va à la croix seul et il y meurt. Seul, abandonné de ses amis, abandonné de son père. Cinquième et dernière perspective sur la croix, son autorité. C'est frappant, on a fait un survol, donc on ne peut pas regarder tous les détails, mais au milieu du procès qui va amener Jésus à être crucifié, il y a un verset qui est très frappant. Chapitre 26, 63 à 64. Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, à savoir le moment de sa crucifixion, le moment de sa mort, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Donc déjà, au moment où il va aller à la croix, il sait qu'après il y aura quelque chose. Et ce quelque chose se réalise à la fin de Matthieu, Matthieu 28, au verset 18 à 20. On connaît très bien le passage. Jésus s'approcha de lui, le crucifié, maintenant le ressuscité, et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Toute autorité repose maintenant sur Jésus. Pourquoi ? À cause de sa croix. Quand le Fils ressuscité regarde en arrière, il voit sa croix. Et il sait qu'à cause de cette croix, maintenant, il a toute autorité. Il règne souverainement sur tout. Lui qui a été vaincu par la mort, semble-t-il, est maintenant victorieux et vainqueur. Philippiens 2, verset 9, le dit explicitement. Je vous invite à tourner à ce passage ensemble. Versets 8 et 9. Paul dit de Jésus, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après la croix et à cause d'elle, Jésus a toute autorité. Voilà la croix vue par Jésus. Pendant son temps sur terre, il s'approche de la croix. Il assume son identité. Il aime son peuple. Il obéit à son Père. Au moment de la croix, il est seul et abandonné pour nous. Et après la croix, il exerce toute autorité pour nous et en faveur de nous. Et nous envoie raconter sa croix à toutes les nations. Revenons maintenant à nos citations du début. Au milieu là, notre rédemption dans la passion du Christ consiste en l'éveil chez nous d'un amour plus profond qui nous libère de l'esclavage au péché et qui nous procure la vraie liberté des enfants de Dieu pour que nous agissions dans l'amour et non dans la crainte. Est-ce vrai? Il y a du vrai là-dedans. Mais notre rédemption dans la passion de Christ ne consiste pas en l'éveil chez nous de l'amour, comme si nous devenions nos propres sauveurs en regardant la croix. La croix, il est vrai, provoque en nous un amour profond. Et je l'espère que vous avez vécu cela pendant ce parcours en Matthieu. Dans tous les cas, moi, quand je regarde comment Matthieu présente la croix, je ne peux qu'être ému et émerveillé par l'amour de Jésus en croix. Mais ce n'est pas cet amour-là qui est provoqué en moi, qui me sauve. Non, ce qui me sauve, c'est la mort de Jésus pour moi. C'est parce qu'il porte ma solitude, mon obscurité, mon péché, la coupe qu'il boit à ma place. C'est parce qu'il fait cela objectivement en dehors de moi, que je suis sauvé. Et par la suite, oui, d'accord, j'ai en moi quelque chose qui s'élève d'amour pour Jésus, qui veut agir pour celui qui est venu me sauver. Sa croix me sauve d'abord. Et parce qu'elle me sauve, et uniquement parce qu'elle me sauve. Elle me motive. Ablard n'avait pas tout faux, mais il y avait quelque chose d'énorme faux. Parce que la croix, avant tout, c'est le moment où Jésus prend ma place et accepte de boire la coupe de mon jugement. Mais soyons clairs aussi que la croix doit nous émouvoir au plus profond de notre être pour que, par son exemple, Jésus nous motive de vivre pour lui dans ce monde. Je me promène donc les clous de Jésus, les clous de sa croix, dans ma poche. Je ne peux plus les mettre dans ses mains et dans ses pieds. Je ne veux plus que mon péché le crucifie. Je ne veux plus que ce que je fais, ce que je dis, les astuces que j'ai, lui fassent du mal. Ces clous, je voulais porter pour me rappeler de son sacrifice pour moi, pour que je puisse vivre à sa gloire. Et je peux le faire, parce que je me rends compte qu'en lisant Matthieu, nous savons qu'avant moi, Jésus, lui, se promenait les clous de sa propre croix dans sa poche. Et que cela, il l'a fait pour moi. Prions ensemble. Jésus, tu as eu le courage d'assumer pleinement ton identité en tant que Messie. Tu demandes à notre tour d'assumer pleinement notre identité en tant que chrétien, en tant que disciple de toi dans ce monde. Seigneur, par amour pour ton peuple, tu t'es sacrifié. Tu nous encourages maintenant à prendre la croix et à te suivre. Seigneur, par amour de ton Père, tu as obéi, même jusqu'à la croix. Tu nous demandes maintenant d'obéir à toi en toutes choses. Et c'est, Seigneur, là où nous ne pouvons plus te suivre, parce que seul tu es allé à la croix, et seul tu es mort à la croix. Et là, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer, parce que toi seul pouvais le faire. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant vivre sous ton autorité de crucifier, de ressusciter et de porter ce message de la croix aux extrémités de la terre. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.